littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future.
Le podcast des Utopiales. Rencontre avec le châtelain des étoiles. Alex Alice. Modération, Gilles Francescano.
Bonjour à tous. Maître, si vous voulez bien prendre place. Bienvenue Alex Alice pour cette petite conversation au coin du feu, dans le château. J'espère que vous avez eu le temps d'aller errer et vous perdre dans l'univers d'Alex, qui est à l'entrée donc, de la cité, qui nous a fait le plaisir de nous amener un bout du château, quand même, avec une superbe planète. Donc, merci, bienvenue.
Merci.
On va passer une petite heure ensemble autour, autour des arts graphiques, autour de la carrière pas si évidente de dessinateur de bande dessinée en France, même si c'est un beau pays là-dessus, puisqu'on a quand même une des productions mondiales les plus intéressantes, il faut quand même l'avouer. Et que le franco-belge, entre guillemets, en termes de format, n'est pas si évident que ça. Et défendre la qualité de la bande dessinée en France, c'est une vraie posture. Donc je pense qu'au bout de ton crayon, tu es quand même militant. Donc l'idée, voilà, c'est Alex nous a amené plein d'images. Donc on va laisser défiler ça au gré de son envie. Et les commenter, parler un petit peu de ton parcours, de ta jeunesse, comment on devient dessinateur et surtout, excuse-moi du peu, mais par rapport à ton âge que je subodore, je me dis que c'est pas évident de commencer une carrière de dessinateur dans ces époques-là, à l'époque, hein, entre guillemets, parce que moi je me rappelle de les premières réflexions familiales, c'est trouver un vrai job d'abord, quoi, forcément. Donc comment as-tu tordu la réalité pour l'adapter à ton monde ? Donc voilà, bienvenue, je te laisse la parole.
T'as pas de questions ?
Si, raconte-nous ta jeunesse de 0 à 20 et après on fera la première question.
Bonjour à tous, merci Gilles de me recevoir. Je suis toujours très à l'aise de parler de soi, hein. Bah, heureusement qu'on est au coin du feu entre nous parce que sinon ça pourrait être gênant. J'ai toujours voulu faire de la BD ou du dessin animé, j'ai toujours voulu en fait raconter des histoires par le dessin. Et pour faire ça, oui, on fait soit de l'illustration, soit du dessin animé, soit de la BD. En tout cas, c'est les trois terrains qui m'intéressaient et qui me passionnent toujours. Et j'ai eu la chance de pratiquer les trois. Quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée dans le sud de la France où il n'y avait même pas de section art plastique. Donc, j'avais vraiment aucune idée de mon niveau. Qui d'ailleurs n'était pas terrible, donc c'était peut-être pas plus mal. Même si je voulais absolument faire ça, mes parents m'ont dit passe ton bac d'abord. Et donc j'ai pas fait de formation artistique. Ils m'ont dit écoute, t'as la possibilité de faire une école de commerce, vas-y, c'est pas long, tu feras une école de BD après. J'ai fait une prépa, j'ai fait l'école tout en continuant à dessiner et en rentrant en école, j'ai commencé à rencontrer des professionnels qu'on invitait en dédicace. J'ai rencontré Denis Bajram qui traîne là dans les couloirs, qui fait Goldorak avec entre autres Xavier Dorizon. En fait, Xavier Dorizon était étudiant la même année que moi dans une autre école et ensemble et avec d'autres évidemment, on organisait un festival de bande dessinée à Paris. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et lui voulait écrire des histoires et moi je voulais les raconter. Et ça a été le début de notre collaboration. Et en fait, on était tout jeunes étudiants. Moi, j'étais en première année. Et en fait, on a échangé sur différentes idées. Et puis un jour, Xavier est arrivé avec l'idée de la quête au Moyen Âge d'un manuscrit oublié, une partie de la Bible qui aurait été oublié puis révélé et puis caché, enfin toute une histoire de templiers, de malédiction, de voilà, tout genre de choses qu'on aimait, qu'on aurait adoré voir à la fin du 20e siècle et qui n'était pas encore tellement dans l'air du temps, c'était avant le Da Vinci Code. Et j'étais complètement accro à l'histoire, même si ce n'était pas le genre de choses que j'avais forcément envie de dessiner au départ. Mais on l'a présenté aux éditeurs et il y a eu. On a présenté partout, on s'est fait jeter de partout. Et il y a eu un éditeur qui l'a pris, qui était Jean-Claude Camano aux éditions Glénat, qui nous a laissé notre chance. Et avec d'ailleurs les bons conseils de Denis Bajram, on a développé la série. Et on a eu la chance parce que ça a très très bien marché tout de suite et ça a lancé notre carrière à tous les deux.
Donc, l'école de dessin, ça t'a, comme son nom l'indique, ça t'a servi à dessiner en fait avant tout, parce que la bande dessinée, il n'y a pas d'école de l'ellipse, quoi, on est d'accord.
Bah non, mais j'ai pas fait une école de dessin. Si tu as suivi ce que je viens de dire, j'ai fait une école de commerce.
Et t'as pas du tout.
Non, enfin,
juste si dessiner de ton côté. Quoi. Tout est possible.
En fait, je m'étais jamais arrêté de dessiner. J'ai continué à dessiner pendant les cours, comme je faisais depuis toujours. Et puis en école de commerce, on n'est pas trop sollicité à l'époque, on n'était pas trop sollicité par l'enseignement. Donc ça m'a laissé le temps de faire la BD pendant mes études, en fait. Et elle est sortie juste avant la remise des diplômes.
Comme quoi, le conseil à un jeune dessinateur, c'est faites une école de commerce.
Non. Non, mais oui, ça laisse du temps. Et puis après, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de formation initiale. Par contre, je continue à apprendre. J'ai toujours eu des maîtres. Je continue à en avoir. Je continue à apprendre. Je continue à travailler. Je continue à travailler sur le motif. Voilà, il n'y a aucun moment où je me suis dit tiens, c'est bon, j'ai fait une formation. Je suis bon. Je suis au point, je peux y aller, j'ai plus besoin de me former. En fait, je continue, ce sera toute ma vie. Mais du coup, oui, avec les conseils de Denis, de Mathieu Loffray, qui m'ont épaulé à l'époque, ça m'a permis de progresser et puis de faire cette première BD. Donc c'est quasiment une formation d'atelier en fait. Denis Bajram m'avait invité dans son atelier à Angoulême à l'époque. Oui, c'est une passation d'artiste à élève, mais voilà, sans le truchement d'une formation. Je suis en train de réaliser que tu n'as pas des écoles toi.
Oui, mais c'est pour ça que je me dis merde, il a pas fait d'école. Il est en train de me scier la branche.
Si, faites une école, c'est hyper important. Non, oui, en fait, en BD, en tout cas, à cette époque-là, il n'y avait que Angoulême, et le fait est que maintenant, il y a des formations de BD. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire de me retrouver à Paris, ces associations-là, de rencontrer Denis, qui a tout le temps été quelqu'un qui a été très généreux avec son temps pour aider les autres. Voilà, donc ça n'arrive pas à tout le monde.
Et la différence que tu peux éprouver lorsque tu travailles avec un scénariste, par exemple, et lorsque tu travailles sur tes propres textes, le scénariste, par exemple, sur le Troisième Testament, par exemple, son job, il s'arrête où ?
Xavier est là, sur le salon aussi. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une idée de Xavier qui a lancé les personnages, lancé l'idée qui était excellente, qui avait le début en fait, du récit. Et à partir de là, on a écrit à deux. Voilà, donc c'est un scénar à quatre mains. C'est vrai que je n'arrive pas à. Je peux pas lâcher prise sur l'écriture. Parce que j'ai besoin d'une conviction totale de ce que je raconte quand j'arrive au storyboard et au dessin, donc j'ai besoin d'avoir les mains dans le cambouis au niveau de l'écriture en fait.
Oui, c'est vraiment un travail immersif, même si c'est à deux ou à trois ou à quatre.
Ça. Oui, et puis après, par contre, j'ai donc collaboré avec Xavier sur cette série-là, sur la suite du Troisième Testament, qui se passe 13 siècles avant, pour lequel il y avait deux autres dessinateurs. Donc j'ai aussi fait du scénario pour d'autres. J'aime bien les collaborations. Ce qu'il y a, c'est que quand c'est moi qui dessine, j'ai besoin de faire les dialogues.
Et sur la série du château, donc est-ce que du coup c'est la quintessence de ton travail, c'est la quintessence de ce que tu aimes faire et de la manière dont tu souhaites le faire?
Alors je vais te dire, ce qui me plaisait le plus à dessiner, c'était ma série suivante qui s'appelle Siegfried, qui était vraiment exactement là où je me sentais bien en termes de dessin. C'est une relecture des mythes nordiques et germaniques autour des opéras de Wagner, de l'Ordurin. Donc c'est la tétralogie de Wagner que j'ai fait en 3 tomes par esprit de contradiction, et dans laquelle il y avait tout ce que j'aime dessiner, la nature, des personnages gigantesques qui sont les dieux, des créatures fantastiques, une forêt mystérieuse, de la neige. C'est un récit que j'ai amené vers une forme de romantisme qui moi me parle, avec les éléments déchaînés. La neige.
Et là, parle-nous un petit peu de ton processus, par exemple, de travail sur une image pareille, par exemple sur une page, lorsque tu la composes de cette manière-là. Parce que là, vu les ancrages, on n'est pas en couleur directe, ou on est en couleur directe ?
Non, oui, effectivement, c'est là où c'est ma dernière bande dessinée sur la technique classique de la bande dessinée, qui était l'encre d'un côté, l'ancrage d'un côté sur une feuille. La feuille est reproduite en gris sur du papier aquarelle, et on faisait l'aquarelle, ça existe encore d'ailleurs, il y en a peu, mais il y en a qui font l'aquarelle sur une reproduction, et après on réintègre les deux pour avoir toujours le noir au-dessus de la couleur. C'est pour ça que dans la plupart des bandes dessinées, notamment tous les classiques, le trait noir est toujours apparent.
Oui, il y avait l'intermédiaire du bleu, qu'on appelait avant le bleu.
Ouais.
Et tu as plus de liberté sur aujourd'hui en couleur directe ?
Ben oui.
Le crayon, l'aquarelle.
Oui, alors ça m'a longtemps fait peur parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Sur une page comme ça, par exemple, j'ai mis le noir et blanc. Vous voyez que le noir et blanc, c'est du travail de cochon. En fait, j'ai eu un. Alors on le voit pas bien, mais en fait c'est du travail de cochon. J'ai eu une épiphanie en voyant un jour à Angoulême les originaux de Pratt, le maître de l'élégance graphique. Et en fait, il travaillait comme un porc. Les pages sont immondes. Il y a de la retouche partout, du bic, des patchs, voilà. Et au final, c'est d'une pureté, d'une élégance totale. Et ça m'a fait réaliser en fait que l'important en BD, c'est pas l'original, c'est ce qu'on va en faire au final. Et donc, je me suis totalement lâché sur l'ancrage. Donc, sur une page comme ça, il y a de tout. Il y a de l'éponge, il y a de la brosse à dents, des crachotis, absolument tout ce qui passe sous la main. Et il y a plein d'erreurs qui sont corrigées avec du blanc, du travail en positif, en négatif. Et ça, en couleur directe, on ne peut pas. C'est pour ça que j'ai longtemps eu peur de cette technique, et en fait il me fallait une certaine assurance pour finir par y arriver. Donc là on voit que c'est une technique dans laquelle il y a à la fois la force de l'ancrage, du noir de l'ancrage, et la possibilité d'aller faire d'un coup un ciel complètement en couleur directe à l'aquarelle, ou un fond marin. Enfin, là pour moi c'était le meilleur des mondes, en fait, cette technique là où on peut avoir des dégradés super fins, une ambiance pas possible, mais en même temps la lisibilité du trait. Et quand j'étais sur cette série, au moment du tome 2, je me suis dit, oh là là, je suis tellement en train de me régaler, si j'ai pas l'idée suivante maintenant, je vais être très très déprimé quand ce sera fini. Un peu comme ce monsieur qu'on voit là. Et en fait, j'ai commencé, comme je travaillais sur la Valkyrie, donc le deuxième de la trilogie, je me suis dit, je vais commencer à chercher une idée. En fait, c'est venu super vite. C'était l'idée du Château des Étoiles. Voilà, mes trois séries sont assez différentes en termes de style, du coup.
Alors sur le Château des Étoiles, il y a un petit élément, moi, qui m'a quand même amusé en voyant les originaux. Je vous invite vraiment à aller voir de toute façon les originaux, lâchez Google Images, quoi. Là je m'adresse aux étudiants dans la salle. Quand un prof vous demande est-ce que vous avez vu tel ou tel tableau, ne lui dites pas oui je l'ai vu parce que je l'ai vu sur Google Images. Une vignette, c'est pas un original, quoi, en fait. Hein. Et ce qui m'a surpris, ouais, c'était phylactère, quoi, en fait. Donc, je me suis dit, waouh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu des originaux avec les textes collés dans les bulles. Donc, explique-moi un petit peu, c'est quoi, c'est un toc ?
En fait, du coup, si vous allez voir l'expo, vous allez le constater. Ce que j'ai sous les yeux quand je travaille, c'est la page finale telle qu'elle sera dans l'album. Et en fait, je commence par le lettrage. Et vous allez voir effectivement sur certaines pages, et la plupart des pages, on voit qu'il y a du lettrage qui est collé par-dessus, mais ça en fait il y en a un par-dessous, il y en a un sur l'original, mais je suis pas content de mon lettrage, donc la plupart du temps je les refais et je les recolle.
Ouais, d'où l'expression copier-coller, quoi.
Exactement, le copier-coller à la main avec des ciseaux. Mais sinon, non, c'est le plus important pour moi de commencer par le lettrage. Alors déjà, je commence par un storyboard en fait précis, lisible. Enfin précis, non, avec un dessin de cochon et des bonhommes patates, mais par contre parfaitement lisible et lettré. Et ça, je fais ça pour l'ensemble de l'album. Ce qui fait que je le mets de côté quelques jours, puis je le prends, je peux lire l'album et voir si l'album me plaît en fait. Puis je peux le faire lire à mon éditrice, je peux le faire lire à Alain Hérol, avec qui on travaille sur l'univers du Château des Étoiles aussi, à un de mes amis qui est d'ailleurs là aux Utopiales aujourd'hui, qui relit tous mes bouquins. Et voir si ça marche en fait, ce qui fait que je peux voir si l'album fonctionne avant de le faire avec un storyboard. Une fois que les choses sont en place, c'est deux heures par page, donc en fait en l'espace de deux semaines, c'est trois semaines, parfois un mois, il y a le temps d'écrire les dialogues et de corriger les choses. En fait l'album existe et après il faut le faire.
Parle-nous un petit peu de du timing, je dirais, par rapport aux différentes étapes entre l'idée, le scénario, le synopsis, le premier storyboard et après le boulot de finalisation.
Écoute, c'est là où moi j'ai tendance à pas mal séparer le travail. Je trouve que c'est un métier hallucinant d'être auteur complet sur une BD parce qu'en fait, sur une histoire comme ça... Si on compare à d'autres médias, on est scénariste, on fait le storyboard, on fait le décor, on fait la lumière, on fait tous les acteurs, on fait tout le jeu d'acteurs, on fait tous les costumes, on fait tous les designs s'il y a des choses à designer. Donc c'est un nombre de métiers absolument considérable. Et moi, j'aime bien essayer de séparer les problèmes. Donc quand je m'occupe de scénar, je ne fais pas de dessin. Je les ai en tête. Les images auxquelles je veux arriver dans l'album, mais je les retiens et j'attends d'y arriver. J'attends d'y arriver par le dessin. Je ne me fixe pas une image, sauf parfois la couve, je ne me fixe pas une image finale en tête, je ne dessine pas avant d'avoir la scène, parce que je ne veux pas m'attacher à une... Je sais que je veux la faire, mais peut-être que ce ne sera pas ce cadrage-là, peut-être que ce ne sera pas exactement ces personnages-là, peut-être, voilà. Donc j'ai besoin vraiment de faire le scénario d'abord, puis les dialogues et le storyboard, ça pour le coup je les fais en même temps parce que je trouve que c'est là qu'est la BD en fait, c'est là où je vais avoir le découpage en tête et après je vais le faire sur le storyboard très très vite, mais je fais vraiment là pour le coup et à la main, c'est dommage j'en ai pas ramené parce que c'est rigolo, le séquencier je l'écris sur ordinateur, j'ai une dizaine de pages par album. Et ma plus grande arme de scénariste, c'est de raconter l'histoire à voix haute à une victime innocente. Il y en a plein qui y passent dans mon entourage. Et raconter dans à peu près le temps que ça prend pour lire l'album, à savoir trois quarts d'heure, un bon trois quarts d'heure. Et en fait, quand on raconte une histoire à quelqu'un, on voit tout de suite, on sent tout de suite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Déjà, le simple fait de la raconter, c'est-à-dire on pourrait être face à un miroir, le simple fait de raconter les choses à voix haute, on se rend compte au moment où on les énonce, si on est en train de dire une bêtise, ou si ça ne marche pas, ou s'il y a quelque chose, ou si c'est excitant, si ça coule naturellement, si une phrase s'enchaîne, si les scènes semblent s'enchaîner, on peut mettre des propositions comme il veut faire ça, mais voilà. Et on voit si le récit a une dynamique et on voit ce qui cloche rien qu'en l'énonçant. Après, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a les yeux de la personne en face. Et on voit tout de suite si les gens décrochent ou pas. On voit les moments qui marchent. Et ce moment-là de rapport direct finalement avec le récepteur de l'histoire, c'est quelque chose qui me reste complètement en tête au moment où j'attaque la suite. Je corrige, parfois je reprends la même victime et je lui dis écoute j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses, mais quelque part à un moment j'ai présenté l'histoire en temps réel dans le temps de lecture à quelqu'un et je garde vraiment précieusement en tête la sensation que j'ai eue moi en la racontant. Et c'est ce que je vais essayer de retrouver dans le storyboard. Une fois que j'ai fait ça à l'oral, je l'écris. Et c'est quasiment ce que j'ai raconté. Et c'est une narration un peu bête, hein, sans dialogue, ou avec un petit dialogue par-ci, par-là. Et ça me sert après à j'ai un paragraphe. Bon, en général, je l'ai complètement en tête parce que je l'ai raconté une dizaine de fois. Mais je vais prendre une feuille de papier A4 de base. Puis je vais mettre un petit point. Puis je vais mettre dans cette case, il se passe ça. Et en général, je commence par le dialogue. Ils disent ça, ils disent ça, ils disent ça. Et après, je découpe les dialogues et je mets silence, gros plan, plan général, etc. En général, évidemment, j'ai les images en tête, j'ai pas besoin d'une grosse description, mais je fais encore ça par écrit. C'est encore de l'écrit, il n'y a pas d'image. Parce que comme j'ai pas d'image, elles vont. J'ai encore. C'est très facile à changer. Je suis pas attaché à un truc que j'ai déjà formalisé. Et une fois que je fais ça, je fais un tout petit gaufrier. Un tout petit découpage de la page juste pour montrer où sont les grandes cases, où sont les petites cases. À partir de là, je peux faire un storyboard lisible en grand. Enfin, voilà, c'est une espèce
t'as pas d'image de ça.
Ah ben non, c'est bête. Mais si tu m'avais dit que tu allais me poser des questions là-dessus. et une fois que la page oui, c'est bête, les storyboards, c'est vraiment marrant à voir parce que c'est vraiment bonhomme patate, mais en même temps, il y a tout. Et une fois que ça, c'est au point, je vois quelles sont les intentions des cases. Et du coup, après, le jeu, surtout sur cette technique-là, c'est d'en mettre le moins possible pour qu'il y ait toute l'intention, mais pas de parasitage. Et c'est vrai que j'ai des pages qui peuvent paraître chargées par moment, mais j'essaye quand même d'en mettre le moins possible.
Tu les as épurées, quoi.
Ouais. Pour mettre en avant la lecture, et j'ai beaucoup de cases en fait. Si on regarde, déjà j'ai beaucoup de cases tout court, mais si on regarde avec attention, il y a beaucoup de cases dans lesquelles le décor disparaît parce qu'on l'a vu, au début et on est en BD, on n'a pas besoin de le remettre à toutes les cases. Donc il y a une espèce de volonté d'épurer. Ça peut paraître bizarre sur un univers pareil, mais de mettre juste ce qu'il faut. Ça sent que bon, de temps en temps, ce qu'il faut, c'est beaucoup.
Et donc, quand tu commences le premier scénario, tu as toute la série en tête, par exemple, le Château des Étoiles. Là, quand tu as commencé la première ligne, tu savais que le sixième tome, il s'arrêterait de cette manière-là?
Alors, sur cette série, j'ai voulu faire un truc super chouette dont je rêvais depuis longtemps. C'était écrire au fil de la plume, ce que j'avais jamais fait. C'est tout ce que j'ai fait était toujours très composé jusqu'à la fin. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais me mettre dans l'état d'esprit des feuilletonistes du 19e. Écrire au fil de la plume, me mettre dans des situations inextricables, oh là là, comment je vais faire, trouver une idée créative, etc. Et donc j'ai écrit le début comme ça, puis après j'ai commencé à le dessiner. Et puis là, j'avais du temps pour réfléchir. Et donc, en l'espace de quelques jours, toute l'histoire s'est écrite, parce que quand on dessine, on a le temps d'écrire, en fait. Donc, j'ai réalisé que cette capacité, ce fantasme d'écrire au fil de la plume me serait jamais interdit, parce que j'ai trop de temps pour réfléchir quand je passe au dessin. Donc, en fait, tout est écrit. Disons qu'il y a une trame pour l'ensemble depuis le début, avec les grandes étapes et la fin. À chaque fois que j'aborde un album, quand même, à chaque fois que j'aborde un album, je me laisse quand même une grande liberté. Je me dis, maintenant, je ne sais pas ce que ce sera, le format, la pagination, l'angle d'attaque, je me laisse à peu près tout imaginer. Les personnages, maintenant, prennent une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent tout seuls. Mais quand même, j'ai tendance à retomber pas mal sur mes pattes par rapport à ce que j'avais eu en tête au départ. Mais avec effectivement des bonnes surprises. Moi, c'est la première fois que je fais une série aussi longue. Et c'est vrai que maintenant, les personnages, littéralement, je les mets dans la scène et ça s'écrit. Ils écrivent tout seuls, en fait.
Et quand on voit la densité de tes décors, le moindre détail dessiné ou réel, on est bien d'accord. Je me dis que le récit, il est modifié aussi en fonction de tes recherches, en fonction de tes trouvailles. Tu trouves une anecdote de fou, une histoire, un objet incroyable qui va influencer le récit, quoi, en fait, à un moment donné.
Oui, il y a eu des objets ou des machines où je me suis dit, oh là là, c'est dommage de les laisser filer maintenant, je vais les garder un peu plus. Mais ça a été surtout vrai sur les personnages. Il y a certains personnages que je pensais pas voir réapparaître et en fait, je les aime tellement que je peux pas m'en passer.
Là, on te voit travailler donc à l'échelle, on est d'accord.
Oui. C'est le portrait de famille qui n'était pas censé être la couverture d'ailleurs, mais qui m'a tellement éclaté que je me suis dit, on va faire la couverture du troisième. Donc c'est un récit beaucoup plus porté par les personnages que ce que j'ai fait avant. Il y a une intrigue d'ailleurs foisonnante et j'espère pas trop complexe, mais la priorité est sur les personnages.
Et l'aquarelle, ça te semblait être le plus adapté ou c'est vraiment ta technique en fait? Parce que tu as changé quand même de technique jusque-là. là, c'est ta plus grosse série, la plus foisonnante, la plus dense, et on se dit peut-être, la, bon, pas la quintessence, mais en tous les cas, la quintessence moins un, hein, je te le souhaite. Et du coup, l'aquarelle, par rapport à l'aquarelle, dans, l'arrivée de l'aquarelle dans tout ça ?
Ben, l'idée, c'était de... Alors, j'avais l'aquarelle, mais elle était en dessous du trait, et l'idée, c'était de se libérer du trait noir, qui est quelque chose de formidable, que j'adore, qui pour moi est vraiment le langage naturel de la BD. Mais pour cette série, j'avais besoin de faire quelque chose de plus flou. En fait, je voulais retrouver la magie des gravures qui illustrent les Jules Verne. Et j'ai notamment des grands souvenirs de lecture d'enfance de Voyage au centre de la Terre, où il y a des vues des grottes avec la mer, les champignons géants, où en fait la gravure est faite de telle manière qu'on ne sait pas exactement ce qu'on regarde, surtout chez les arrière-plans. On ne sait pas si l'arrière-plan c'est le ciel, la grotte, la mer, les nuages, et ça laisse l'imagination travailler, et c'est chargé de mystère. Et moi, à l'ancrage, j'arrivais pas à faire ça. J'ai essayé sur Siegfried et j'ai eu des frustrations par rapport à ça. Ou alors, je me retrouvais à faire deux fois le boulot et de manière et l'ancrage se rentrait dedans avec l'aquarelle. Enfin, ça marchait pas vraiment, ça marchait pas suffisamment pour moi. Et c'est pour ça que je suis lancé sur cette technique, donc en couleur directe, avec des pages comme ça, par exemple. Ou pour moi, voilà, c'est exactement des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette technique, ce genre de page où il y a ce mystère, il y a cette île, elle apparaît, elle disparaît à moitié dans la brume. Est-ce que là c'est la mer, est-ce que c'est le nuage, est-ce que on peut tout imaginer, et pour les rendus des planètes aussi, je voyais pas de solution à l'ancrage. J'avais besoin que les vues des planètes me parlent de cette manière. Je sais pas comment l'exprimer, mais avoir quelque chose que, bah, je me rends bien compte que c'est pas réaliste, mais qui a cette magie des vues de l'espace réel, ou d'ailleurs fantasmée dans le cinéma des années 70, ou les peintures spatiales avec lesquelles j'ai grandi. Voilà.
Et alors, comment, et alors par rapport à ton récit, pour peut-être amener de nouveaux lecteurs qui auraient pas encore, qui seraient pas encore tombés dans ton univers, pourquoi et comment l'éther ?
Ah ben, en fait, je voulais faire une histoire qui parle de conquête de l'espace au 19e depuis ma lecture de Autour de la Lune de Jules Verne, qui était une grande frustration pour moi, parce que dans Autour de la Lune, on n'atterrit pas sur la Lune. En fait, Jules Verne passe le bouquin à décrire les hypothèses de l'époque sur, OK, alors qu'est-ce que c'est que ces reliefs lunaires ? Est-ce que c'est les remparts d'anciennes cités ? Est-ce qu'il y a de l'air peut-être dans les crevasses de la Lune encore ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la face cachée ? Et moi, je voyais ces aventuriers en costume trois pièces avec des hautes formes, Michel Ardan qui arrive de Paris avec cette espèce d'enthousiasme 19e complètement naïf et totalement contagieux. Et je voulais absolument qu'il débarque sur la Lune, qu'il fasse un peu ce qu'ils avaient prévu, quoi. Et donc il n'y arrive pas, ils font le tour, ils rentrent. Et moi, j'avais envie de partir explorer cet imaginaire spatial avec mes personnages. Et il fallait une découverte, il fallait une variation sur la réalité. Il fallait que le voyage soit possible et qu'on aille dans l'univers tel qu'on l'imaginait à l'époque. Et à l'époque, on imaginait que le cosmos n'était pas vide, il était plein d'une substance qu'on a appelée l'éther et qui permettait... En fait, on supposait que la lumière devait voyager dans un milieu comme le son dans l'air ou une vague sur l'eau. Donc, il devait y avoir quelque chose qui portait l'onde. Et on l'a appelé éther et on y a cru jusqu'au début du 20e, où il y a eu une expérience pour prouver l'existence de l'éther, si je ne dis pas de bêtises, et qui a prouvé l'inexistence de l'éther. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, il y a beaucoup de scientifiques ici. Voilà, et ça c'est une hypothèse merveilleuse, parce qu'elle dit tout de suite, ok, on n'est pas chez nous. Ok, c'est la Terre de 2869, mais... on trouve un truc dont on sait qu'il n'existe pas. Et je voulais que ça arrive très très vite dans le récit. Donc là, c'est page 3 ou 4. Ok, bon, il y a de l'éther. On sait qu'on est dans un autre cosmos. On sait qu'on est dans une ucosmie où les lois de la physique vont être non pas telles qu'on les connaît, mais telles qu'on les supposait à l'époque. Et bah, ça va être pareil sur la Lune. Il y a des restes d'atmosphère sur la face cachée. Sur Mars, ça va être Mars tel qu'on l'imaginait à la fin du 19e avec ses canaux. Parce qu'on observait, on commençait à avoir des traits de surface et on croyait qu'ils étaient rectilignes. C'était en fait un effet d'optique. Mais l'Italien qui a observé ça a appelé ça canali, ce qui veut dire, je crois, chenal, et qui a été traduit par canal. Et on s'est dit, oh là là, mon Dieu, mais les Martiens doivent faire comme nous. On venait de construire le canal de Suez et on se disait, oh là là, les Martiens doivent être des gens chics comme nous. Ils construisent des canaux, sauf qu'eux, ils font tout le tour de la planète pour amener l'eau des pôles et irriguer la planète. Donc, ça doit être une civilisation encore beaucoup plus avancée que les Français. espèce de Ferdinand de Lesseps puissance 10 000. Et donc, du coup, d'où cet imaginaire martien, des martiaux très sophistiqués, d'une planète mourante et désertique, irriguée par des canaux. C'est des choses qui ont continué à influencer l'imaginaire spatial, en fait, jusqu'à maintenant. Mais qui étaient à l'époque, enfin, voilà, des hypothèses très crédibles, en fait. La même chose sur Vénus, une jungle infestée de dinosaures. Donc voilà, donc c'est des idées qui sont qui à l'époque étaient des hypothèses crédibles, qui aujourd'hui sont d'une poésie incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que ça m'évoque ce qu'on c'était, disons, à l'époque, la frontière de l'inconnu. On commençait à avoir fait le tour de la Terre, il y avait encore des endroits qu'on n'avait pas visités, donc il y avait les pôles, mais surtout, on voyait la Lune, on ne connaissait pas la face cachée, donc on ne savait pas ce qu'il y avait. On voyait Mars, mais on se disait, bon sang, qu'est-ce que c'est là-bas ? La frontière de l'inconnu, elle était là. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus loin, elle est sur les exoplanètes, et j'ai le sentiment qu'à partir de très peu d'infos, comme on avait à l'époque dans le système solaire, là, on a très peu d'infos, mais c'est sur les exoplanètes. Et à partir de très peu d'infos, moi, je vois effectivement des vues d'artistes. On imagine, OK, comment pourrait être la vie, etc. Et j'ai l'impression, la même démarche qu'on avait à l'époque dans le système solaire. Toujours génial.
Avant que tu changes d'image, je voulais sauter sur cette image. Parce qu'il y a deux éléments, moi, qui m'interrogent dans cette image. Par exemple, il y a les maquettes et la nature, en fait. Hier, tu nous as expliqué, en faisant l'affiche, que tu as profité du temps de confinement pour pouvoir travailler sur l'affiche. Vu que tu as quand même une nature foisonnante dans tes travaux et que tu travailles à l'aquarelle et que, bucoliquement, on a quand même la vision de l'aquarelliste dans la nature, donc est-ce que tu vas, sur place, faire des plans de nature, en fait, avec ton chevalet et tes aquarelles ?
Oui, le plus dur, c'était pour Mars.
Ah, faut voir.
Sur Vénus, j'y vais pas, les dinosaures sont trop dangereux. Oui, je travaille beaucoup d'après. Enfin, je fais de l'exercice d'après nature, pas pour les. Enfin, comment. Bah, si, d'ailleurs, les tomes 5 et 6 se passent à Paris et je suis allé sur les lieux faire des petites aquarelles pour l'ambiance. Oui, je trouve que c'est important d'aller. Particulièrement quand on fait de la fantasy.
L'ancrer dans le réel.
Oui, d'aller s'abreuver au réel le plus souvent possible pour rendre les choses crédibles, solides. C'est pour ça aussi que j'ai fait faire les scaphandres et les maquettes.
Oui, les maquettes, par exemple, parce que quand même, quand on voit tes maquettes, bon, alors il y a des dessinateurs qui font une petite maquette en 4 morceaux de carton pour avoir les formes et puis pour s'en servir pour dessiner. Mais toi, j'ai l'impression, est-ce que les maquettes, elles interviennent finalement après le dessin ? Ou elles te servent aussi à travailler ensuite ?
Ben les deux, le vaisseau principal, moi j'y tenais beaucoup parce que c'est le vaisseau qui permet le voyage extraordinaire. Donc moi j'avais en tête le Nautilus de Jules Verne, surtout dans la version du film de Fleischer qui est insurpassable et qui sont des véhicules qui portent le rêve. Et je voulais absolument essayer de retrouver ça et c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas à mes yeux, avec l'Eternef. Principal de la série et pour qu'il existe effectivement j'ai fait faire la maquette après le tome 1, donc j'avais déjà sué sans EO pour le dessiner dans le premier volume mais j'avais commencé déjà à travailler avec le maquettiste et ce qui est génial c'est que c'est quelqu'un qui m'a apporté le regard de quelqu'un qui fabrique et ça a donné beaucoup plus de consistance au design. Parce que d'un coup, moi, je lui ai envoyé les plans, tout content, comme un auteur de BD qui va dessiner une forme sympa. Et puis lui, il m'a rappelé en disant, mais attendez, votre truc, là, moi, ça ne tient pas, ça. Comment je fais pour construire ce truc? Il me faut un renfort là, un renfort là, un renfort là. Et c'est marrant, enfin, on a l'impression de faire construire l'engin en vrai. Et c'est le cas, c'est juste qu'il est un peu trop petit.
Oui, un peu plus tard, pour le tome 10. Donc ça entraîne une question, donc ça s'arrête bien au tome 6.
Non. C'est la fin, mais c'est pas fini. Non, c'est une fin. En fait, c'est une série qui fonctionne par diptyque. Il y a une fin au tome 2. Les deux premiers volumes sont une histoire complète. Je voulais faire ça parce que je savais que j'adorais cette histoire, mais je savais pas si cette technique et ce sujet allaient me plaire graphiquement. Je pensais que j'allais peut-être m'ennuyer ou ça allait peut-être être trop difficile pour moi à cause de la richesse graphique de l'univers et du fait que c'est beaucoup, enfin c'est compliqué. Je voulais qu'il y ait une porte de sortie pour moi et puis pour le lecteur. Donc il y en a une. C'est juste que la dernière page relance et refait partir l'imaginaire. Je me suis aperçu que je m'éclatais et que j'allais continuer. Et le tome 6 est une fin aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se clôt. Mais j'en ai pas fini avec l'univers, avec les personnages. Par contre, j'ai une fin totale et définitive à la série. C'est juste que je me laisse le temps d'y arriver.
Et lorsque aujourd'hui, du point de vue du coup plus professionnel sur le côté éditorial, par exemple, quand tu présentes le projet, tu vas, je dirais, prudemment, en disant bon, on verra 2 tomes ou 6 tomes ou 9 tomes. Non, enfin, vu ta carrière, pour l'instant, c'est un blanc-seing à chaque fois. Ou c'est naïf comme question.
J'ai pas eu beaucoup des blancs-seings. J'en ai eu 2, c'est normal, tu vas me dire. J'ai fait assez peu de séries, en fait, finalement. Je passe pas mal de temps sur chaque univers. Et puis c'est une série que j'ai. Le premier album est paru en 2014, mais j'ai probablement dû signer avec l'éditeur en 2012. Donc c'était il y a fort longtemps, quand les éditeurs aimaient encore bien les séries. Donc voilà, il n'y a pas eu tellement de soucis de ce côté-là. C'est vrai que le format de la série en grand format comme ça est en train de passer, parce qu'il y a des imbéciles qui font des albums complets de 139 pages avec Goldorak et qui
ils sont pas dans la salle.
Ils sont pas dans la salle, heureusement, mais voilà. Et on a pris l'habitude, on commence à prendre l'habitude avec les ânes fourbes avant un triste précédent fait par 2 sinistres individus qui sont dans la salle aussi, qui fait que effectivement on prend l'habitude en BD maintenant d'avoir des superbes albums super bien dessinés qui sont des pavés, qui sont des livres qui vous accompagnent pendant une soirée entière ou plusieurs jours. Et moi en tant que lecteur, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Donc voilà, Zone Fourbe et Goldorak, évidemment, je recommande chaudement. Mais le fait est que ce sont des albums qui font ce qu'on attendait, c'est-à-dire je pense qu'on va sur un changement de format et qui est quelque chose de pas évident, parce que ça devient un investissement pour les scénaristes et surtout pour les dessinateurs, un investissement très long. Et le problème, c'est que du coup, pour les éditeurs, ça veut dire aussi un investissement beaucoup plus important. Et en fait, la BD a commencé dans les journaux et on laissait sa chance à un auteur sur quelques pages. Si ça marchait bien, on lui donnait une série. Si la série marchait bien, on faisait un album de 46 pages. Et si l'album de 46 pages marchait bien, on faisait une intégrale de 130-200 pages. Voilà, moi, quand j'ai commencé, il y avait quasiment plus de magazines. Maintenant, il y a quasiment plus. Enfin,
ils ressortent un petit peu, là.
Oui, mais c'était très bien. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais disons que voilà, si demain le marché ça va se concentre sur des gros bouquins comme ça, c'est plus difficile. Vous vous rendez compte? Enfin, pour un jeune auteur avant, c'était on va te laisser une chance sur 2 pages. Maintenant, si ça devient, on va te laisser une chance sur 135 pages. C'est pas la même pour les éditeurs et c'est pas la même pour la découverte des nouveaux talents. Donc c'est une vraie question, je pense, pour le monde de la BD. Et voilà. Donc je pense que la période de l'album 46 pages à suivre était un peu une période bénie. Moi, j'ai démarré là-dedans et j'en ai bien profité. Le Château des Étoiles, c'est encore là-dedans et Dieu merci, il y a un public qui suit ce format. Moi, j'espère qu'il va continuer, mais je sais que les éditeurs sont plus frileux maintenant qu'avant. Encore une fois, en tant que lecteur, je comprends parfaitement et je suis absolument ravi de voir débarquer des énormes bouquins de la qualité qu'on a là, quoi.
Alors juste une petite question, peut-être un peu poil à gratter sur les éditeurs et le système de la bande dessinée, les dédicaces. Je sais que ça a fait couler un petit peu d'encre il y a quelques années, enfin avec des revendications ou pas. Enfin, toi, c'est quoi ton regard sur les files d'attente de dédicaces, sur les dédicaces revendues sur le net dès le lendemain ou des choses comme ça? Est-ce que tu as un petit point de vue là-dessus ou on peut rester sur l'aspect graphique, hein?
Non, je suis pas. Moi, j'aime bien les séances de dédicaces. J'aime bien rencontrer le public, avoir des retours des gens. Surtout quand ils viennent en dédicace, c'est qu'ils ont bien aimé. Donc c'est bon pour le moral. Et c'est chouette, c'est vrai que c'est un métier assez solitaire. On est content d'avoir un retour public, y compris quand il est franchement négatif. Moi, ça m'a jamais arrivé, mais je me dis ça arrive pas souvent. Mais même quand il y a des critiques, l'expression de peut-être parfois d'une déception, ça, moi, je suis tout à fait preneur. Je trouve ça super constructif, au contraire. J'aime bien passer un petit peu de temps pour faire un petit dessin, effectivement, pour avoir quelques secondes pour discuter. Après, s'il y a vraiment beaucoup de monde, c'est difficile et ça devient un peu plus... on essaie de faire plaisir à beaucoup de gens et y a moins le temps de la rencontre. Et puis après, sur les phénomènes d'abus, des gens qui revendent la dédicace immédiatement sur eBay, c'est lamentable, mais c'est tout système attire les profiteurs et c'est pas pour ça qu'il faut foutre en l'air les systèmes.
D'ailleurs, à propos de dédicace, tu as des séances de dédicace, j'imagine, après là.
Mais tout à fait, dans 15 minutes.
On va donner rendez-vous comme ça tout de suite. Ouais. Alors vous pouvez, si vous avez envie de poser quelques questions, vous pouvez interrompre Alex, hein, même si on continuerait bien quelques petites heures. Donc n'hésitez pas à lever la main. Il y a déjà des mains qui se lèvent. Je ne sais pas si on peut faire circuler un micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive en courant avec un micro? Si je vois une jeune fille toute dévouée à la cause... Merci.
Oui, j'avais une question. À l'heure du numérique, où justement plein d'artistes maintenant utilisent cette technique pour avoir un travail très productif, et vous, dessinant de façon traditionnelle à l'aquarelle, est-ce que cela n'a pas justement une répercussion sur votre temps de travail et votre productivité ?
Si c'est une bonne question, c'est une répercussion très positive. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, ça va plus vite sur du papier. En tout cas, c'est le cas pour moi, mais je soupçonne pour beaucoup de gens. Parce que en fait, quand on travaille dans le réel, il y a une notion d'engagement. On ne peut pas revenir en arrière, ou pas beaucoup. Le trait sur le papier, alors surtout à l'aquarelle et en couleur directe, alors on peut pas du tout revenir en arrière. Et du coup, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut faire appel à une capacité humaine qui s'appelle l'imagination, à savoir la capacité de produire des images dans la tête, et après la faire exister dans le réel. Moi, ce que j'ai constaté quand je travaille sur informatique, parce que je le fais aussi, c'est que j'ai tendance à laisser l'écran faire l'imagination à ma place. C'est-à-dire que c'est tellement facile, ça va tellement vite, qu'en fait, je suscite l'imagination directement sur l'écran, et sans avoir fait l'effort de la créer d'abord là-dedans. Je pars en live, et du coup, je cherche. Et comme je ne sais pas où je vais, parce que je n'ai pas formé l'image dans ma tête... Je me perds et j'y passe des heures et des heures et des heures. Et en plus, si je ne suis pas content, je reviens en arrière où j'ai sauvegardé. Donc en fait, c'est absolument interminable. Et comme il y a toujours la possibilité de revenir en arrière, je n'ai pas la peur de l'échec. Donc il n'y a pas de risque. Donc je m'ennuie.
J'espère que Denis Bachram n'est pas dans la...
Mais si, mais si, ça va susciter des débats sans fin. Non, mais ce que je dis là, ça ne regarde que moi. Après, moi j'ai des copains dessinateurs qui sont passés sur Bécane, quasiment tous en fait, mais pas mal qui effectivement me parlent de l'ennui de l'écran. Il n'y a pas de risque, donc, on s'ennuie un peu. Là, le fait de travailler, je ne suis pas sans filet, c'est pas la traversée de l'Amazonie à la nage, mais en tout cas, dans le cadre du travail, oui, il y a une page comme ça. Si je suis content du fond et que je fais Mars et que Mars est raté, faut tout recommencer. Donc il y a une espèce de grosse pression. Et c'est des techniques où il faut aller vite aussi. L'aquarelle, il y a un moment, vous voyez par exemple tout le bas de l'image. C'est tout dans le frais, parce que si je m'arrête à un moment et que ça sèche, il va y avoir des bordures de séchage d'aquarelle qui ne vont pas être beaux. Donc là, c'est les concentrations.
Voilà, c'est le papier qui commande. Là, ouais.
C'est ça, donc c'est la bonne musique, les 2-3 essais à côté, et puis après, hop, c'est parti, et puis en 10 minutes, c'est fait. Donc ça va super vite. Pour moi, en tout cas, le fait de se dire que sur l'informatique, ça va aller plus vite, c'est, je comprends, mais c'est vraiment une idée reçue, en ce qui me concerne.
C'est une réponse qui prend le contre-pied.
Mais je pense que si je le constatais pas moi-même, j'aurais du mal à le croire. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment vrai.
Oui, bonjour. J'ai remarqué dans vos œuvres, en tout cas, beaucoup de références germaniques, Louis II de Bavière, Neuschwanstein, Siegfried. Et vous faites également partie de ce rare cercle d'auteurs de bandes dessinées français à être traduits en allemand. Comment vous expliquez, alors, d'une part, votre intérêt pour la culture germanique, et deuxièmement, comment vous expliquez cet intérêt des Allemands, justement, pour votre bande dessinée, parce que les bandes dessinées francophones, dans les bibliothèques allemandes, il faut savoir, c'est vraiment tout petit.
Oui, effectivement. J'ai fait espagnol. Et je suis bien embêté parce qu'en fait, même dans le Troisième Testament, le héros est allemand. c'est quelque chose qui me poursuit. En fait, je pense que tout ça vient d'un voyage en Allemagne que j'ai fait avec mon père quand j'avais l'âge à peu près des héros du Château des Étoiles et où j'ai découvert, c'était l'époque où je lisais Jules Verne, Tolkien aussi, et où j'ai découvert l'univers romantique de Louis II de Bavière, de cette queue de comète du romantisme européen, Wagner, ses châteaux en plus... Sous la tempête, perché sur des pics avec des lacs, les montagnes derrière. Et je pense que ça m'a marqué à vie et que j'en sortirai jamais. Ça me vient de. C'est pas l'Allemagne en particulier, c'est ce romantisme-là qui me marque. Et les Friedrich, c'est Otto Carus. Et du coup, je pense que les Allemands, ils voient ça, ils se disent sehr gut. J'ai fait espagnol. Je suis très content parce que de temps en temps, quand un étranger, c'est les films américains où les Français sont Jean Reno et boivent du camembert et nous on rigole en se disant oh là là, ils ont vraiment rien compris. Apparemment, ça les a pas complètement dégoûtés. C'est que ça doit être à peu près fidèle. Même si je m'en moque pas mal aussi, j'avoue que je n'hésite pas sur l'humour facile sur les Allemands. Et pour l'instant, ils m'en ont pas trop voulu. Je suis retourné pour les repérages aussi, évidemment, pour le château, les prises de vue, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonsoir. Merci. J'avais une question à propos d'un personnage dans le Château des Étoiles qui est Hans, justement, pour rebondir sur la question de monsieur.
Et vous êtes Hans... Excusez-moi.
Pardon. Donc, par rapport au personnage de Hans, justement, pour rebondir sur les aspects germaniques. C'est un personnage qui est assez différent des autres graphiquement. C'est un clin d'œil au manga ou il y a quelque chose...
Je sais pas si on peut le... En fait, moi, je suis de la génération Albator. Et du coup, pour moi, une des grandes incarnations du récit d'aventure quand je grandissais, c'était les séries animées japonaises à la télévision. Et donc, quand il s'agit d'aborder le Château des Étoiles... Je savais que je voulais un regard. Je voulais déjà que la série n'est pas pour les enfants, mais je voulais absolument que les enfants puissent rentrer dedans. Je voulais que l'enfant que j'étais puisse tomber dessus. si j'avais pu me l'envoyer à moi-même à cette époque-là, faire l'album que j'aurais aimé lire aussi à cette époque-là, je le fais pour moi aujourd'hui, à mon âge canonique, mais je voulais absolument que laisser cette porte d'entrée. Et du coup. retrouver les émotions que j'avais dans les récits d'aventure quand j'ai visité le Neuschwanstein. Et pour moi, l'émerveillement passait aussi par cette culture-là de l'animation japonaise. C'est quelque chose qui a toujours été présent dans mon dessin, en fait, mais que j'avais tendance à cacher un peu parce que ça n'allait pas avec les thèmes que je traitais. Et là, c'est simplement une influence que j'ai laissé ressortir. Et le personnage de Hans... en rupture graphique par rapport aux autres, ça c'est quelque chose que j'aime faire, que j'avais fait sur Siegfried aussi, et c'est une des choses que nous permet la bande dessinée depuis les origines, hein. Dans Little Nemo, il y a Little Nemo qui est très réaliste, et il y a son espèce de trickster de camarade qui lui a une utilisation complètement différente. Les Japonais font ça très régulièrement, et ce personnage est une espèce d'archétype japonais qu'on retrouve dans Albator, dans Goldorak, dans Conan, le fils du futur, la série de Miyazaki, qui est remarquable, que peu de gens connaissent. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande très chaudement. Et je ne sais pas d'où vient cet archétype, mais c'est très probablement Tezuka, comme comme tout. Et j'adore ça, le fait d'avoir dans une BD un personnage très beau, très grand, très réaliste, et puis un petit bonhomme. Voilà. Uderzo faisait ça aussi sur Tanguy et la Verdure, ou même Astérix, dans une certaine mesure. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pu, j'ai l'impression, plus beaucoup pratiqué en bande dessinée franco-belge pendant un bon moment, et que j'avais envie de retrouver dans cette série. Les Américains le font plus du tout non plus, alors qu'ils l'ont fait aussi.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Vers l'avant, je vais en poser une un petit peu, histoire de parler un petit peu aussi des originaux, puisque la dame qui parlait du numérique... C'est vrai que le fait de travailler avec les originaux permet aussi quand même, et ça fait partie aujourd'hui peut-être d'un renouveau du marché de la bande dessinée, la vente des originaux, puisqu'il y a quand même eu une grosse période où effectivement on a un petit peu abandonné toute la bande dessinée, ou l'illustration classique au profit du numérique. Et moi je trouve que depuis une dizaine d'années, il y a quand même de grosses galeries parisiennes qui se sont réintéressées aux originaux de l'entertainment, quoi, en fait, avec peut-être... que ce soit Daniel Mangen avec qui tu travailles, ou Arludic par exemple, qui mettait un petit peu ses arts au goût du jour. Oui. Est-ce que la vente d'originaux fait partie aussi aujourd'hui d'une carrière, d'un complément de carrière en fait d'un BDiste, on dit toujours ça, ou
moi j'aime bien. Oui, évidemment. Je pense que dans le, en fait, bon, je sais pas. Enfin, il est un peu tard pour parler du marché de la bande dessinée, mais
ouais, je suis désolé. Peut-être qu'on va prendre quand même la dernière question. Je peux.
Oui,
faire
effectivement.
De la mienne,
hein. Évidemment, c'est un complément de revenus appréciable et qui, je pense, c'est quasiment l'équivalent des concerts pour les musiciens. Effectivement, on vend moins de disques et du coup, ouais, on gagne plus sa vie sur les concerts. Moi, je trouve ça formidable. J'adore les originaux.
Alors, à propos du
concert,
j'adore
le travail sur le papier. Je suis très content. Les galeries ont des trésors, et c'est formidable. Moi, j'adore aller dans ces galeries-là et aller regarder, parce qu'en plus, il y a des très grandes de toute l'histoire de la bande dessinée. On peut avoir les originaux sous les yeux.
Il nous reste 5 minutes, mais je vous réinvite quand même à aller voir les originaux et les triples planches, par exemple, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de triples planches en bande dessinée. Donc, il y avait une dernière question, peut-être.
Oui, alors moi, c'est quelque chose qui pique ma curiosité, comme vous avez fait espagnol, mais que vous intégrez quand même de l'allemand dans vos albums. Qui écrit finalement les textes en allemand, et quand est-ce que vous décidez que tel texte, telle expression va être en allemand ?
Alors, pour la deuxième partie de votre question, c'est quand ça me fait rire. Et souvent, ça me fait rire. Mais c'est bête, hein. Mais comme j'y comprends rien, je trouve que les mots compliqués en allemand, visuellement, ça me fait marrer, cette espèce d'amoncellement de consonnes avec des umlauts. Voilà. Moi, je suis désolé, hein, c'est vraiment un humour bête. L'auberge des parents de Hans s'appelle le Petit Canari, et en allemand, je crois que c'est Die Kleine Kanarie Vogel, un truc comme ça. Et rien que le fait de mettre ça en gothique, moi je trouve ça irrésistible. Je suis désolé, c'est un humour extrêmement basique. Et c'est le juge de paix aussi. J'ai aussi mis des insultes en allemand. Effectivement, il n'y a pas de logique. Hein. C'est, je mets les mots étrangers. En fait, je suis dans la convention que en fait, tout le monde parle français dans cette histoire, parce que j'ai un tas de nationalités. Donc, je suis vraiment dans une convention de la fiction dans laquelle tout le monde parle la langue, quoi, comme dans Star Trek. Hein, on va au bout de la galaxie et tout le monde parle anglais. J'ai pas fait comme ça pour les extraterrestres parce que j'avais vraiment besoin d'une rencontre beaucoup plus d'une altérité plus radicale que dans Star Trek, mais ça reste des anthropomorphes, mais voilà donc je suis sur la convention de tout le monde parle français, mais je résiste pas au plaisir des mots étrangers ou de patois aussi, ou de breton, et j'essaie d'aller trouver des spécialistes. Alors il y en a un dans aux Utopiales aussi qui est Alex Nikolavitch, que je salue, qui est l'auteur de tous les articles de la Gazette du Château des Étoiles qui accompagne la prépublication en journaux. Et lui, il maîtrise plus l'allemand que moi. Et donc, de temps en temps, je lui envoie des expressions. Et alors, dans la BD, j'ai mis des insultes en allemand. Et en fait, on m'a fait remarquer que c'était vraiment trop vulgaire. Et elles ont été changées pour la traduction en allemand.
Je crois que la réponse va au-delà de ce que vous attendez. il est temps vraiment de te remercier, Alex, de ta venue et puis de ta passion, de ton naturel. La conclusion, c'est que le Châtelain des Étoiles est sacrément expiègle et ça me fait bien plaisir de le découvrir et de le rencontrer. Je vous remercie pour votre présence et bonne suite de festival.
Merci à tous. Merci, Gilles.
Rendez-vous en délicat.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future.
Any future. Le podcast des Utopiales.